Les midis de culture, la suite, c'est maintenant. Alors à 13h, je recevrai Mina Cavani qui interprète un seul en scène à partir des poèmes de Forour Farozad au Bouffe du Nord à Paris. Elle sera avec nous en plateau pour parler de poésie iranienne. Mais avant, c'est l'heure de retrouver Sophie Catherine Gallet, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Hier, nous avons appris la mort d'Eliane Radig, grande figure de la musique contemporaine, dont la carrière a débuté dans les années 50 pour continuer jusqu'aux années 2000. Figure pionnière entre plusieurs courants, quelles étaient les spécificités de ses compositions, comment cerner l'importance de son apport à la musique contemporaine? C'est notre dossier du Point Culture du jour. François Bonnet, bonjour.
Bonjour Sophie, Catherine Gallet.
Vous êtes le directeur du GRM, le groupe de recherche musicale de l'INA. Alors hier, nous avons appris la mort d'Eliane Radig, une compositrice majeure de musique contemporaine, pionnière dans son art, qui avait débuté dans les années 60 comme élève de Pierre Schaeffer, puis avait été l'assistante de Pierre Henry, deux autres grands noms de la musique contemporaine. Comment décrire les compositions d'Eliane Radig? Quelle était la spécificité de son style? Est-ce qu'on peut dire qu'elle appartenait à un courant en particulier?
Pas vraiment en fait, même si Eliane Radig se revendiquait effectivement de la tradition de la musique concrète où elle avait fait ses armes, sa façon d'envisager la musique et de la pratiquer se distinguait un petit peu des écritures assez structuralistes de la musique concrète à l'époque pour très rapidement dans sa carrière se pencher sur des formes longues. Pas pour le plaisir de la durée, mais pour la nécessité d'une musique introspective, d'une plongée dans le son. Et donc ça a tout de suite donné, d'abord avec le synthétiseur, et puis après, plus tard dans les années 2000 avec ses instrumentistes, une musique assez singulière qui peut se rattacher à certains courants de minimalisme, notamment aux États-Unis, mais qui a vraiment une spécificité et une approche très singulière.
Alors, on peut entendre dans la série de grands entretiens que vous lui avez consacré qu'elle décrit sa musique comme un travail extrêmement lent pour très délicatement faire passer le matériau sonore à un autre état. Alors, de quel état parle-t-elle et quel est cet autre état aussi dont elle parlait ici?
Alors, c'est des états qui sont des états de stationnement du son, et il n'y a pas d'état, conceptuel. On part d'un point de départ et on arrive à un point d'arrivée, et en fait, toute la musique se déploie dans les modulations extrêmement subtiles, dans les déploiements et dans les développements extrêmement fins qu'elle peut articuler. Pendant longtemps, elle a travaillé avec son synthétiseur ARP 2500, et tout son travail, c'était en temps réel de modifier très 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 lentement les paramètres, et donc l'écoute est plongée dans une espèce de temporalité très étrange où on va être à l'affût des modifications infinitésimales et on va rentrer dans un état d'hyperfocalisation de sa musique. Et ça, c'est vraiment très singulier dans son travail.
Et on peut lire également que ses compositions sont jouées en concert par un orchestre de haut-parleurs, comme l'Acousmonium du GRM. Alors comment ça fonctionne et comment cette mise en espace de sa musique, justement, permet de l'apprécier particulièrement?
Alors voilà, il y a deux grandes époques dans la musique d'Eliane Radig. Il y a une musique faite sur bande avec un synthétiseur et des sons électroniques. Et puis ensuite, il y a une musique faite pour instruments acoustiques. Mais dans les deux cas, il y a toujours un travail, ce qu'elle appelait un peu un travail d'accordage, entre la musique, le dispositif et le lieu dans lequel la musique va se déployer. Donc quand c'est une musique électronique, il y a une certaine façon de penser la disposition des haut-parleurs, une certaine façon de les orienter, un certain niveau sonore aussi à atteindre. Elle n'aimait jamais vraiment que sa musique soit trop forte pour justement donner un espace très profond et très subtil. Les instrumentistes, ils travaillent aussi souvent de cette façon, en cherchant l'acoustique du lieu, en essayant de voir comment la musique d'Eliane peut se déployer au mieux dans un espace donné. C'est toujours une négociation, une discussion entre une interprétation, un dispositif et une acoustique.
Alors justement, depuis 2001, vous l'avez un peu déjà précisé, elle collaborait avec des instrumentistes et on peut lire, alors je cite, qu'elle utilisait un processus de composition comparé à la transmission orale de musique traditionnelle. Comment ça s'est traduit ça dans sa musique et comment on peut comprendre ce nouveau processus par rapport au reste de sa carrière ?
Alors ce nouveau processus, il est né d'une nécessité, c'est que quand elle était au poste dans son studio et avec son synthétiseur, elle faisait la musique qu'elle voulait entendre, et elle avait cette boucle chère à la musique concrète du faire entendre, donc elle écoutait les résultats, et donc elle était dans une négociation interne. Quand on a des musiciens, on doit communiquer. Mais sa communication se passait pas par quelque chose de programmatique, qui est finalement une partition avec des paramètres très figés, et des exécutions à faire par les instrumentistes. C'était déjà une exploration en coprésence avec les musiciens pour voir les timbres, les spécificités de jeu de chaque musicien pouvait proposer. Et ensuite, le partage d'idées, d'images mentales aussi, pour cheminer dans l'évolution de sa musique. Donc on est vraiment dans un rapport de communication infralangagière, quelque part de sensibilité à sensibilité, ce qui fait que seuls les instrumentistes qui ont vraiment pu travailler avec Eliane sont légitimes pour jouer son œuvre instrumentale.
Alors vous êtes donc le directeur du GRM, groupe de recherche musicale de l'INA, on le redit. Pourriez-vous nous préciser en quelques mots ce qu'est le GRM et nous dire surtout le lien qu'entretenait Eliane Radigue avec ce groupe de recherche ?
Alors le GRM, c'est une institution qui est née au sein du service de la recherche de l'ORTF, puis qui a été rattachée à l'INA. C'est quelque chose qui date de 1958, qui a été fondée par Pierre Schaeffer. Et finalement, Eliane Radigue, elle a été en compagnonnage avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry presque avant le GRM, dès 1940, enfin dans les années 50, quand le GRM s'appelait Groupe de Recherche de Musique Concrète. Et donc, elle s'est vraiment liée à cette façon de penser la musique et penser le son à partir des sons. Et donc, le GRM, il y a eu une relation de long compagnonnage avec Eliane. Elle était là au début. Ensuite, elle a fait toute sa carrière. Et puis, ces dernières vingtaines d'années, il y a eu un rapprochement parce qu'elle s'était toujours attachée à revendiquer sa filiation avec Pierre Schaeffer. Et donc, on a collaboré, notamment sur la réédition de tout un coffret de disques. On a fait des concerts avec Eliane. On est détenteur du fonds d'archives d'Eliane Radigue. Voilà, on a renoué les liens qui avaient été si importants pour elle à ses débuts.
Et comment on pourrait décrire au fond l'originalité d'Eliane Radigue par rapport à Pierre Schaeffer, par rapport à d'autres grands noms comme ça de la musique contemporaine ?
C'est difficile. Eliane Radigue, c'était une personnalité vraiment spéciale, à part entière. Sa musique, son caractère, tout concourait d'une direction, d'une exigence qu'elle s'était forgée. Et elle a tracé sa voie, certes avec des influences, des compagnonnages, mais elle avait vraiment une façon très très singulière dans sa musique. Une façon, cette singularité était aussi très en avance, si on pense aux musiques d'avant-garde qui sont développées actuellement, était vraiment dans un rôle de précurseur et avec une voix propre qui est assez difficile à décrire en quelques mots à la radio.
Et donc du coup, pour une dernière question, quel serait son héritage pour vous ?
Son héritage, il est multiple. Je pense qu'on n'en prend pas la pleine mesure, mais il va se déployer effectivement du côté des musiques électroniques, des musiques électroniques de durée. Il va se développer du côté des instruments minimaliste, mais je pense que c'est aussi cette attention, cette surfocalisation du phénomène sonore qu'on peut trouver dans certains aspects de la musique électroacoustique, mais qui là sont réduits finalement à une expression liminaire. Et c'est ça qui, je pense, est assez fascinant, parce que c'est une musique qui est extrêmement riche, dont la richesse ne se fait pas par une accumulation de matériaux, mais au contraire par une raréfaction. Et ça, c'est une grande contribution, je crois.
Merci beaucoup, François Bonnet.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Livre Hebdo est accusé d'avoir censuré un historien.
Oui, à l'occasion des 200 ans de Hachette, la revue spécialisée Livre Hebdo vient de faire paraître sur son site internet une série d'articles consacrés à l'histoire du groupe. Parmi eux, un entretien avec Jean-Yves Mollier, historien de l'édition, dans lequel une question et sa réponse ont été retirées quelques heures après leur publication. Cette dernière, quelle est la clé de la longévité du groupe sur deux siècles, avait en effet amené une réponse sans appel de la part de l'historien qui critiquait ouvertement la politique interventionniste de Vincent Bolloré depuis qu'il avait racheté Hachette en 2023. Un changement qui, selon Jean-Yves Mollier, menace la liberté éditoriale des différentes maisons d'édition du groupe. Contacté par le journal Le Monde, le directeur de publication de Livre Hebdo n'a pas souhaité faire de commentaires, tout en assurant qu'il n'avait subi aucune injonction pour retirer ce passage de l'interview.
Et pour finir, Sophie Catherine, la ménagerie de verre à Paris a un nouveau directeur.
Et c'est Christophe Sucet qui va prendre la direction artistique de ce haut lieu de la danse, succédant ainsi à Philippe Ken en poste de 2022 à 2025. Christophe Sucet est un connaisseur de la maison puisqu'il en était le directeur exécutif depuis 2023. Il sera accompagné à ce nouveau poste de directeur artistique par la chorégraphe Zoé Lacnati.
Merci beaucoup Sophie Catherine et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
Il est 13h et vous êtes sur France Culture.